La visite Les Mystères de la Citadelle a lieu jeudi 11 mai. Annabelle, guide conférencière au service patrimoine à la mairie de Île-d'Yeu.
Pour la visite de la citadelle, en fait, j'ai décidé de pas juste parler du fort actuel, puisque bien sûr, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que fait ce fort dans la défense globale de l'Île-d'Yeu. Donc finalement, je commence à parler de la défense de l'île dès la construction du vieux château. Donc ça date du 14e, donc je commence au 14e siècle, et puis je finis sur l'époque actuelle, et notamment avec l'occupation des locaux par les associations.
La thématique, on l'a bien compris, c'est la défense de l'île-Dieu. Comment s'est fait cette évolution?
Alors, en fait, la défense, elle s'est vraiment adaptée à l'évolution de l'artillerie. On a commencé, bien sûr, avec la construction du vieux château, qui était ce qu'on appelle une défense passive, c'est-à-dire qu'on attendait que les ennemis débarquent, notamment sur la côte sableuse, puis traversent l'île pour venir attaquer le château. Sauf que ce château a été rapidement obsolète du fait de l'invention, bien sûr, de la poudre à canon et du canon qui va avec. Et donc, finalement, même si ce château a été peu à peu adapté à l'évolution de l'artillerie, on avait quand même du fait des canons ennemis des grandes zones sur les murailles qui n'étaient plus défendables en fait. Hein. On avait des grands grands murs bien droits avec des tours rondes. Donc c'est pour ça que quelques siècles plus tard, donc à partir du XVIIe siècle, on va et même avant, à partir du XVIe siècle, on va aménager donc devant le château une ceinture en forme d'étoile que les architectes avaient rencontrée en Italie quand nos rois sont partis faire les guerres d'Italie. Et donc cette ceinture en étoile était beaucoup mieux adaptée au canon, puisque là, donc, faut imaginer que quand l'île était attaquée et que le château était attaqué, eh bien, les soldats du château sortaient du château, se positionnaient derrière cette ceinture en étoile, et eux, par des tirs de canon ou des tirs d'arquebuse, pouvaient exercer donc des tirs croisés. Donc il y avait vraiment toute la zone de cette ceinture extérieure qui était défendue. Et en plus, c'était une défense basse, donc très difficile à atteindre pour des canons ennemis. Donc cette ceinture extérieure, elle a pu résister à quelques sièges et elle n'a d'ailleurs jamais été prise par l'ennemi. Après ça, donc bien sûr, eh bien, il va falloir penser à continuer à faire évoluer la défense de l'île, puisque là, les canons, peu à peu, notamment à l'époque de Louis XVI, vont évoluer et surtout vont pouvoir tirer à des cadences de plus en plus rapides et de plus en plus loin. Donc finalement, ce qu'on a décidé à l'époque de Louis XVI, c'était surtout qu'il ne fallait surtout pas que les ennemis ne débarquent sur l'île. Donc la châtelaine de l'île à l'époque, qui s'appelait Jeanne Pélagie de Rieux, a décidé de défendre la côte sableuse, là où les débarquements ennemis se faisaient, puisque c'est la côte la plus abordable, donc entre Port-Joinville et la pointe des Corbeaux. Et elle a fait construire donc des petites redoutes côtières sur cette côte. 7 redoutes au total, dont une très très belle qui portait le nom du fort des yeux ouverts, ce qui a donné beaucoup plus tard la plage des eaux verts en fait. Hein. C'est une déformation de ce nom. Mais bien sûr, ça n'a pas suffi, hein, puisque les bateaux ennemis et notamment les Anglais ont continué à menacer autour des côtes de l'Île-d'Yeu. Et heureusement, Napoléon est arrivé. Et donc Napoléon avait évidemment très très peur que l'île ne soit prise par l'ennemi. Et donc il a décidé en 1803 d'envoyer sur l'île un général de brigade qui s'appelait le général Bertrand, qui a essayé de réfléchir un peu à comment aménager l'île pour qu'elle soit parfaitement défendue, justement pour résister à un débarquement ennemi. Et donc il a fait plusieurs préconisations, ce général de brigade, et notamment c'est lui le premier qui a réfléchi que il fallait effectivement construire tout autour de l'île, sur toute la côte, une ceinture de défense avec donc des canons, donc des petites batteries de côte, et au centre, y construire un fort. Tout simplement parce que selon lui, et il avait raison, si des ennemis s'approchaient en bateau, on pouvait les ralentir grâce à ces défenses côtières. Mais si jamais une de ces défenses côtières était prise et que du coup les ennemis arrivaient à débarquer sur l'île, eh bien les soldats qui étaient au niveau de ces défenses côtières pouvaient se précipiter dans un fort central dans l'île et puis vraiment attendre que les ennemis arrivent faire le siège de ce fort central. Et donc ça prenait du temps évidemment et ça aurait permis bien sûr aux généraux qui étaient sur le continent de faire venir donc une armée pour aider les Français qui se trouvaient sur l'Île-d'Yeu. Finalement, Napoléon, voyant la menace anglaise grandir, il a déclaré l'Île-d'Yeu en état de siège à partir de 1804. Donc état de siège, ça veut dire que bien sûr il faut faire venir une garnison de soldats sur l'île, et donc une journée de l'année 1804, 1500 soldats du continent ont débarqué sur l'île, et donc bien sûr il a fallu mettre en œuvre le projet qu'avait préconisé le général de brigade Bertrand. Donc ces soldats ont construit donc tout autour de l'île des redoutes côtières, notamment là où il y avait des zones accessibles à la navigation, donc au-dessus de la Meule, de la plage des Vieilles, à la pointe du Butte, etc. Et il a fait construire donc en 1804 un fort central, mais c'est pas du tout le fort de la citadelle qu'on connaît. En fait, ce fort, il se trouvait déjà où il y a la citadelle actuelle, mais il avait rien à voir. Il était beaucoup plus grand, il faisait 80 mètres de longueur, mais il était beaucoup moins bien fini parce qu'il a vraiment été fait dans la précipitation. Donc il faut imaginer simplement au centre de ce fort un grand rectangle qui servait de réserve de poudre. Et à l'avant de ce grand rectangle, eh bien, on avait des lunettes défensives avec des bastions sur chaque angle. Et donc ça permettait effectivement, si jamais les redoutes côtières étaient prises, de résister le temps qu'on pouvait donc, dans ce nouveau fort.
Le fort actuel où on est aujourd'hui, il date de quand alors ?
Alors, il a été construit plus tardivement parce que le premier fort, bien sûr, a été fait, comme je vous l'ai dit, dans la précipitation. Donc, il n'a pas été très, très bien terminé. Et il fallait absolument qu'on construise un vrai fort, finalement, dans l'île. Alors, les premières demandes pour construire un vrai fort ont été faites dans les années 1840. Et on a enfin eu l'accord pour le construire et la construction a réellement commencé seulement en 1858. Donc ça a duré jusqu'en 66.
8 ans donc.
Tout à fait.
Ce fort a évolué dans le temps ou il est figé depuis ce temps ?
Alors il est presque resté comme il était à l'origine. Hein, sauf que bien sûr maintenant c'est plus un fort militaire. Hein, il a servi entre temps de prison pendant de très nombreuses années. D'abord la construction du fort elle a été très complexe puisqu'on est là sur un des plateaux les plus hauts de l'île. Hein, parce qu'il fallait que ce fort domine en fait les alentours. Il a même été question pendant un moment de le construire à Kerviru, qui est vraiment le point culminant de l'île. Et puis finalement, c'est le plateau où nous sommes qui a été choisi, puisque il surplombe tout simplement Port-Joinville. Donc il est très près du port d'attache de l'Île-Dieu. Et pour le construire, donc on avait là un socle granitique. Donc ce qui a été très compliqué, ça a été de creuser les douves. Il a fallu vraiment casser le socle rocheux avec des mines. Et il a fallu creuser sur plus de 6 mètres de profondeur la roche. Et donc cette roche qui a été extraite a servi en grande partie à construire le fort actuel. Mais par contre, il a fallu faire venir du continent énormément de matériaux et notamment du tuffeau, donc cette pierre calcaire qui vient de Saint-Savin dans les Charentes, et puis aussi tout ce qui était matériel métallique, etc. Et non seulement il a fallu faire venir des matériaux du continent, mais il a fallu également faire venir des ouvriers. Très très nombreux ouvriers, il y en a eu jusqu'à 400 qui sont venus du continent travailler sur ce chantier. Et bien sûr, il y a des hommes célibataires qui sont arrivés également et qui ont fait souche, qui ont rencontré des Ilaises et qui se sont installés sur l'île, notamment les familles Tonnel, Girard ou encore Bernard. Et bien leurs ancêtres, pour la plupart d'entre eux, sont des ouvriers qui sont venus travailler dans ce fort.
Annabelle, tout à l'heure tu nous as parlé des douves. Amènes-tu les visiteurs dans les douves durant cette visite ?
Oui, alors j'ai la chance effectivement de pouvoir ouvrir les douves pendant la visite, donc c'est assez sympa parce que c'est un endroit vraiment bucolique, très chouette, et ça permet vraiment de faire comprendre aux gens un petit peu cette architecture militaire très bien réfléchie, très bien aboutie, et puis aussi de leur amener un petit peu de vocabulaire pour leur culture personnelle.
Quel vocabulaire alors, Annabelle ?
On va parler d'escarpes, de contre-escarpes par exemple, de chantepleurs, etc. Donc il y a pas mal de vocabulaire à acquérir qui est très intéressant.
Quelle était l'utilité première de ce fort, Annabelle ?
Alors, l'utilité première de ce fort, comme je vous le disais, c'était d'avoir un point de défense central. Et l'intérêt de ce fort par rapport à celui qui existait avant, c'est que dans celui-ci, les soldats pouvaient y dormir. Donc, si jamais les ennemis arrivaient à passer les défenses côtières, les redoutes côtières, eh bien, les soldats qui se trouvaient là pouvaient le défendre autant de temps que nécessaire en attendant les secours venant du continent. En plus, il fallait absolument qu'on construise des défenses sur l'île à l'époque napoléonienne, parce qu'effectivement, les Anglais menaçaient énormément. Et si jamais les Anglais avaient réussi à prendre l'île à l'époque, ça aurait été vraiment tout bénef pour eux, comme on dit aujourd'hui, puisqu'ils auraient eu là un endroit où, pour leur flotte, ils auraient pu avoir un accès à l'eau potable. Ils auraient pu aussi avoir un accès, bien sûr, à des denrées alimentaires, parce que sinon, à chaque fois, il fallait qu'ils remontent vers Jersey et Guernesey. Donc ça faisait quand même une trotte. Ils auraient pu avoir un point face aux côtes françaises pour préparer des débarquements justement sur la Vendée ou ailleurs en France. Ils auraient pu aussi y installer un hôpital pour soigner leurs soldats à bord de leur bateau. Ils auraient pu aussi réparer leur bateau, faire par exemple des entrepôts à charbon pour justement pouvoir alimenter leur marine qui naviguait à base de charbon. Enfin bref, ils auraient eu vraiment un point face à leur ennemi de toujours, face à la France. Donc ça aurait été très très problématique et il fallait surtout pas que ça arrive.
Et ensuite, c'est devenu une prison, entre autres.
Tout à fait. En fait, le fort, malheureusement, avant qu'on le construise, enfin la citadelle actuelle, il a fallu très longtemps pour que la décision soit prise de sa construction effective. Et du coup, quand il a été commencé en 1858, eh bien, il était déjà obsolète, c'est-à-dire dépassé par l'évolution de l'artillerie. Donc, il a été occupé finalement assez peu de temps par l'armée. Et très vite, dès la Première Guerre mondiale, donc, il va être transformé en prison. D'abord, donc, pour les internés, ça, on en a beaucoup parlé, pour les internés allemands et austro-hongrois qui sont venus séjourner dans le fort pendant toute la Première Guerre mondiale.
D'ailleurs, il y a eu une expédition.
Tout à fait, il y a une exposition qu'on va très bientôt remettre en place dans le fort, puisqu'on est en train de travailler sur un programme de valorisation du fort, justement, pour que tout le monde comprenne un petit peu quels ont été les rôles de cette défense.
Annabelle, tout à l'heure, tu nous as parlé des douves qui étaient ouvertes durant cette visite. Amènes-tu les visiteurs dans un autre lieu de la citadelle non ouvert au public?
Oui, alors je les amène également dans un des bastions du fort, un des plus beaux d'ailleurs, c'est le bastion nord-est, pour vraiment leur montrer comment ce fort était défendu par les soldats qui se trouvaient à l'intérieur. Donc c'est assez chouette de prendre un peu la place de ces soldats et de s'imaginer que des ennemis arrivaient en face et comment on pouvait faire pour les arrêter.
C'est presque un jeu de rôle, cette visite, non?
Ah bah toujours un peu, oui, quand on parle d'une défense, c'est comme au château, on essaye de se mettre dans la peau des protagonistes pour comprendre voilà comment ils pouvaient fonctionner dans des fortifications comme ça. L'entrée actuelle, là où il y a le pont-levis, ça a toujours été l'entrée principale. Avec un pont-levis d'ailleurs, si vous passez par là, arrêtez-vous, le regarder puisque c'est un pont-levis mécanique avec des mailles en fait de fer très très intéressantes. C'est assez exceptionnel hein, en France qu'on ait conservé tout le mécanisme d'un pont-levis mécanique comme celui-ci et
C'est unique.
c'est pas unique, mais c'est rare.
Durant cette visite, as-tu beaucoup de questions liées au maréchal Pétain?
Alors bien sûr, oui, j'en ai, évidemment, puisque ça a été son lieu de détention. Donc il est arrivé, comme vous le savez, en 45, il va rester là jusqu'en 51, puis il va être envoyé dans une maison à Port-Joinville, donc dans la rue Guistot, pour terminer ses jours parce qu'il était dans un état de santé très très voilà très très grave. Et ce que j'aime bien mentionner pendant cette visite, c'est que on le sait pas toujours, mais en fait le maréchal Pétain, il était déjà venu sur l'île bien avant. En fait, entre les deux guerres, en 1921, il va venir sur l'île quelque temps, enfin vraiment pas longtemps. À la rencontre d'un ami, un proche à lui, que vous connaissez tous de nom, c'est Gabriel Guistot. Gabriel Guistot, il a été donc ministre de la Marine, maire de Nantes, et c'était un îlet en fait, hein. Donc lui, il habitait dans une très belle maison dans la rue Guistot, d'ailleurs, qui porte son nom, qui s'appelait les Simounelles. Et donc Pétain va être accueilli donc un jour du mois d'août 1921 à l'Île-Dieu avec avec le général Bua, qui est aussi très connu. Ils vont faire donc une tournée d'inspection sur l'île, passer du temps donc dans la maison des Simounelles. Et ce qui est quand même fou, c'est que le maréchal Pétain va décéder très longtemps après dans la maison qui se trouve juste de l'autre côté de la rue, donc dans le chalet Lucot.
La visite Les Mystères de la Citadelle a lieu jeudi 11 mai, réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme de l'Île-d'Yeu.